Laudetur Jesus Christus.
Au moins 3 Palestiniens tués dans un nouveau raid israélien ce matin en Cisjordanie. Dans le même temps, le front de Gaza est toujours invivable pour les populations constamment déplacées. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem au début de ce journal. On ne saurait régler la guerre sur un champ de bataille. Les mots du Premier ministre indien ce matin, Narendra Modi, à propos de la guerre en Ukraine. Il est attendu à Kiev et il est ce jeudi en Pologne. Dans ce journal également, la Corée du Sud qui tente d'enrayer sa crise démographique. Séoul envisage d'accepter davantage de travailleurs étrangers pour augmenter sa population active. Et puis nous irons aussi dans le Pacifique, sur les îles Samoa, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de lancer une nouvelle alerte sur les effets des changements climatiques.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, au moins 3 Palestiniens tués ce jeudi matin dans un raid israélien en Cisjordanie. Il a été mené par une frappe de l'armée israélienne à Tul Karem. Tsahal qui parle d'une opération de contre-terrorisme. Selon les Nations Unies, un Palestinien a été tué en moyenne chaque jour depuis le début du mois d'août par une frappe aérienne israélienne en Cisjordanie. Pendant cela, la population à Gaza continue toujours de vivre, elle, sous les bombes et la situation humanitaire y est toujours catastrophique. Il y a quelques jours, un premier cas de polio, le premier en 25 ans a été recensé dans le territoire. Les agences de l'ONU demandent une pause humanitaire urgente pour pouvoir y lancer des campagnes de vaccination. En raison des combats, les familles de déplacés à Gaza, ne savent plus où chercher refuge. 86% de la bande de Gaza y ont déjà été soumis à des ordres d'évacuation depuis octobre dernier, selon l'agence des Nations Unies, l'OCHEA. À Jérusalem, Valérie Furin.
Des centaines de milliers de familles déjà déplacées à de nombreuses reprises continuent d'être ballottées d'une zone à une autre au rythme des ordres d'évacuation de l'armée israélienne qui les a forcées au fil de ces derniers mois à se concentrer le long de la côte entre la ville du sud de Khan Younes et celle du centre de Deir el-Balah. Selon l'agence des Nations Unies OCHA, on y compterait actuellement 30 à 34 000 hommes, femmes et enfants au kilomètre carré. Cette zone déclarée humanitaire par Israël ne cesse par ailleurs d'être réduite. L'armée israélienne vient d'ordonner aux familles déplacées dans le secteur centre de partir, alors que les bombardements et les chars israéliens ciblent les populations civiles partout, sous les tentes, au milieu des gravats de leurs maisons, sur les marchés et en particulier dans les écoles où elles cherchent refuge, faisant à chaque fois des dizaines de morts et de blessés. Cette puissance de feu n'empêche pas les factions palestiniennes de continuer sans relâche leurs attaques et embuscades contre les troupes et les chars israéliens, notamment dans la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, où la puissance occupante est présente depuis le mois de mai. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et alors que les discussions patinent toujours entre Israël et le Hamas, Joe Biden, le président américain, s'est entretenu hier soir avec Benjamin Netanyahou, soulignant, a précisé la Maison-Blanche, l'urgence de finaliser un accord sur un cessez-le-feu et une libération des otages. Les États-Unis où s'achève ce jeudi la grande convention du Parti démocrate à Chicago. Kamala Harris, la vice-présidente et candidate à la prochaine élection, est attendue ce soir à la tribune. Hier, c'est Tim Walz qui a accepté l'investiture pour être le prochain vice-président. Âgé de 60 ans, cet ancien professeur de géographie est le gouverneur de l'État du Minnesota. Un autre front de conflit est bien sûr celui de la guerre en Ukraine et de l'incursion des troupes de Kiev en territoire russe dans la région de Koursk. Des abris anti-aériens, a-t-on appris ce matin, ont été installés dans les rues de plusieurs villes de la région. Annonce faite ce matin par le gouverneur de cette région de Koursk. Le président ukrainien Zelensky a lui annoncé s'être rendu ce matin sur le terrain dans la région ukrainienne de Soumy, frontalière de celle de Koursk. Il y a rencontré plusieurs chefs militaires et annoncé la prise d'une localité supplémentaire dans cette région. Sur un plan diplomatique, le Premier ministre indien Narendra Modi est lui ce jeudi en Pologne. C'est une première dans le pays depuis 45 ans. Un déplacement en prélude à sa visite prévue demain en Ukraine. Le premier déplacement du numéro 1 indien proche de Moscou dans le pays depuis l'invasion russe. À Varsovie, les précisions d'Adrien Sarla.
Il est le premier dirigeant indien à fouler le sol polonais depuis la fin du communisme. Narendra Modi se dit impatient de rencontrer le président Andrzej Duda et le Premier ministre Donald Tusk. Les têtes de l'exécutif polonais le recevront aujourd'hui, chacun de leur côté. La visite de Narendra Modi coïncide avec le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Inde et Pologne, mais elle est surtout une étape avant sa visite en Ukraine. Une prochaine étape d'autant plus attendue que la rencontre chaleureuse entre le Premier ministre indien et le président russe Vladimir Poutine il y a quelques semaines avait beaucoup agacé Kiev. Volodymyr Zelensky avait publiquement regretté de voir, je cite, « le chef de la plus grande démocratie du monde et le dictateur le plus sanglant » se donner une franche accolade. Il faut dire que depuis 2 ans, l'Inde a beaucoup fait pour soulager la Russie face aux sanctions occidentales. En 2022, elle a acheté pour plus de 54 milliards de dollars de pétrole à Moscou, soit 10 fois plus que d'habitude, devenant le premier financeur de l'effort de guerre russe. L'enjeu pour le Premier ministre indien sera donc de faire oublier ses liens étroits avec Moscou, lui qui n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
Oui, Narendra Modi qui plaide pour des négociations dans cette guerre ukrainienne. Aucun conflit ne peut être résolu sur un champ de bataille, vient-il de déclarer depuis la capitale polonaise, avant donc cette visite à Kiev. L'Ukraine où le nonce apostolique, Mgr Vsevolod Kubolka, salue l'engagement toujours très fort de la société civile dans la guerre. Depuis Kiev, le diplomate du Vatican a participé en ligne ce matin à une table ronde sur la paix organisée dans la ville italienne de Rimini, où se poursuit le 45e meeting pour l'amitié entre les peuples. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le Bélarus et la Chine vont signer un accord pour établir entre eux une zone de libre-échange pour des services et des investissements. Annonce faite à l'instant par le président bélarus Alexandre Loukachenko, qui a reçu le premier ministre chinois Li Qiang, le premier ministre chinois qui était hier à Moscou. Partons pour la Corée du Sud, qui envisage d'accepter davantage de travailleurs étrangers pour augmenter sa population active dans le contexte de la crise démographique que connaît le pays, qui pourrait perdre 20 millions d'habitants d'ici à 2070. La Séoul envisage de se tourner vers l'immigration, une politique qui s'annonce plutôt difficile dans un pays habituellement très réticent à l'immigration. La correspondance à Séoul de Clément Le Breton.
Population vieillissante, taux de natalité le plus faible au monde avec seulement 0,7 enfants par femme, la Corée du Sud est en état d'urgence démographique. Yoo Ye-mi, secrétaire d'État à la natalité, a indiqué ce matin que la Corée du Sud devrait désormais faire appel à plus de travailleurs étrangers pour faire tourner l'économie. Une décision assez impopulaire dans un pays connu pour sa politique très restrictive en matière d'immigration. La Corée du Sud a également été dénoncée à de nombreuses reprises pour les mauvaises conditions de travail qu'elle réserve à ses travailleurs étrangers. Récemment, un programme de visa pour 100 domestiques venus des Philippines a été vivement critiqué car le gouvernement souhaitait les payer en dessous du minimum légal. La secrétaire d'État a indiqué que le coût général de la main-d'œuvre étrangère était trop élevé à cause du salaire minimum coréen et qu'il faudrait songer à faire baisser ce coût. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
L'ONU s'inquiète de l'état des libertés fondamentales au Sri Lanka alors qu'approche l'élection présidentielle. Elle aura lieu le 21 septembre. Depuis l'an dernier, le gouvernement a introduit ou proposé une série de lois qui donnent des pouvoirs étendus aux forces de sécurité et élargissent considérablement les restrictions aux libertés d'expression, d'opinion ou d'association, s'inquiète le Haut Commissariat aux droits de l'homme dans un rapport publié aujourd'hui. L'ONU, dont le secrétaire général Antonio Guterres est en tournée dans le Pacifique, dans l'archipel des Samoa, plus précisément pour y alerter une nouvelle fois sur l'impact des changements climatiques. Depuis la capitale de ce micro-État, il a souligné que certains territoires de l'océan Pacifique risquaient d'être anéantis par la nature. Un sombre tableau, maintes fois répété, Xavier Sartre, mais pourtant bien réel.
Oui, Olivier, ce qu'Antonio Guterres a déclaré depuis les Samoa, tout le monde le sait depuis des années, l'augmentation des températures au niveau mondial fait fondre les calottes glaciaires des pôles, provoquant la montée du niveau de la mer. Et quand votre territoire n'a que quelques mètres d'altitude, comme de nombreuses îles ou îlots du Pacifique, chaque centimètre compte. Ces pays du Pacifique sont donc en première ligne de la crise climatique, confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, des cyclones tropicaux déchaînés, aux vagues de chaleur records dans les océans. C'est ce qu'a détaillé le chef de l'ONU aujourd'hui, des phénomènes que ces territoires connaissent depuis toujours, mais qui sont de plus en plus amplifiés. Pour les sauver de la disparition, il faut donc à tout prix limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On en parle depuis 2015 et l'accord de Paris lors de la COP21. Mais depuis, on continue de négocier sur les moyens à dégager pour y parvenir. Et en la matière, les pays riches doivent faire leur part. Antonio Guterres les a une nouvelle fois donc exhortés à respecter leurs engagements. Il a aussi appelé une action internationale pour lutter contre la surpêche et la pollution plastique dans le Pacifique. Les problèmes environnementaux, Olivier, ce n'est pas qu'une question de température.
Xavier Sartre, merci beaucoup. Et puis l'Australie annonce vouloir construire la plus grande centrale solaire du monde, un projet de 12 000 hectares dans le nord du pays qui pourrait produire suffisamment d'énergie pour alimenter 3 millions de foyers. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin à 8h30. En attendant, une excellente après-midi.